Je pars ou je reste? On reste ensemble ou on se sépare? Est-ce que je peux, est-ce que je dois pardonner? Est-ce qu'un couple revient vraiment de ça? Est-ce qu'on peut toujours s'aimer après tant d'années, les enfants, les trahisons? Et si je reste, pourquoi je reste? Est-ce que je le sais moi-même?
Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
Alors pourquoi on se pose toutes ces questions? Avant, forcément, c'était beaucoup plus simple. Avant, la seule mission du couple, c'était d'assurer la reproduction, d'assurer la sécurité physique, la sécurité financière, d'avoir un toit commun. Socialement, se séparer, c'était vraiment mal vu. Se séparer, c'était la honte. Ça pouvait même mener jusqu'à l'exclusion. C'était impensable. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est quand on décide de rester alors que le couple ne remplit pas tous nos besoins que ça devient louche.
Oui, socialement, on n'est plus tenu par l'extérieur, en fait. On n'est plus tenu par les règles sociales, par le contrat de mariage, la religion, ou des états de guerre, de famine, de devoir de survie. En fait, on a énormément de possibilités. Donc l'extérieur ne nous tient plus ensemble, voire même, il a tendance à nous offrir des options et à nous tenter à nous séparer à chaque coin de rue, que ce soit les sites de rencontres, que ce soit ou même des notions de liberté, de vouloir justement être heureux, de quête d'épanouissement ultime. Et cette espèce d'injonction qu'on a aujourd'hui à être heureux qui, au contraire, va tendre à nous séparer plus que à nous tenir ensemble comme c'était le cas avant.
Alors, si l'extérieur arrête d'être la force qui nous maintient ensemble, le sujet change. Le sujet devient comment créer un ciment intérieur. Comment créer dans notre relation une force d'attraction suffisamment puissante pour nous faire rester ensemble. Ça devient une décision, ça devient un engagement, ça devient une volonté de rester ensemble, de traverser nos crises. En fait, la liberté fait que rester ensemble dans le couple devient un choix.
Oui, c'est un choix et il y a quelque chose de beau là-dedans. Parce que avant, on restait parce qu'on n'avait pas le choix. On restait par devoir, on restait par pression sociale, on restait parce que c'était interdit de faire autrement ou juste parce que c'était impensable, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, quelque part, c'est pas très valorisant. Alors qu'aujourd'hui, si je reste, alors même que je pourrais partir, si j'ai toute la liberté que je peux, si grâce au fait que les femmes aujourd'hui travaillent, peuvent avoir un compte bancaire et un chéquier, elles ont la possibilité, elles peuvent demander le divorce, elles peuvent partir. Y a toutes ces notions de partage de garde des enfants. Petit à petit, les hommes arrivent à obtenir des gardes alternées beaucoup plus souvent, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est plus du tout par devoir qu'on reste ensemble. C'est par choix. Et ça, ça sublime ce qu'on a à partager. Ça dit à quel point tu es important pour moi et à quel point la relation est importante pour moi pour que je fasse le choix de rester malgré l'inconfort, malgré les crises, malgré les difficultés. Pas juste parce que c'est ce qui m'a été transmis et que j'ai appris de la société et que c'est acquis, c'est comme ça, mais parce que je le choisis.
Moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que avec cette notion de liberté, il y a quelque chose de très beau. Et en même temps, il y a un nouveau prix. Le prix a changé. Maintenant, le prix, c'est celui de la responsabilité. C'est-à-dire qu'avec une grande liberté, vient toujours une grande responsabilité. Avant, tu étais ma femme, j'étais ton homme, c'était pour la vie. Et c'était comme ça. Donc finalement, quel que soit ce que j'allais faire dans mon comportement, ça n'allait pas avoir autant de conséquences que ça, parce que l'engagement, il était écrit et gravé dans le marbre, quoi qu'il arrive. Donc si aujourd'hui on décide de rester ensemble, c'est parce qu'on l'a choisi. Et qu'est-ce que ça veut dire le choisir? Ça veut dire que ce qui est en train de se passer entre toi et moi, je désire continuer à le vivre. Donc ça veut dire que mon comportement a maintenant des conséquences réelles. Je réalise que comment je suis, qui je suis avec toi, peut autant te donner envie de rester que de te donner envie de partir. Et je deviens responsable de mes comportements. Je deviens responsable émotionnellement aussi de ce que je vis, de ce que je te fais vivre et de ce que l'on vit ensemble.
Donc on commence à se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une belle sexualité dans notre union, par exemple. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est des sujets que les couples se posent, et à raison, c'est normal, c'est difficile en fait d'allier ça avec un quotidien. Mais en même temps, on se pose cette question justement parce que, à la fois, c'est ça qu'on se souhaite et que tout un chacun en a envie ou besoin, différemment, à des dosages différents, des rythmes différents, mais quand même. Mais aussi parce qu'il y a cette notion de, en fait, si dans notre couple, on n'a plus de sexualité, l'autre va finir par partir. Alors, soit me quitter, soit aller voir ailleurs, et ça, c'est plus tolérable aujourd'hui. Donc, la responsabilité de l'individu dans le couple, c'est aussi agrandie à tout ce qu'il donne à l'autre, et tout ce qu'on partage ensemble qui fait que demain, on va avoir envie de continuer à le partager.
Oui, en fait, la question avant était souvent qu'est-ce que je vais recevoir ? Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi ? C'est comme s'il y avait presque une inversion de paradigme où maintenant, on se pose aussi la question de en fait, qu'est-ce que je donne ? Qui je suis dans le couple, en fait ? Moi, à ton contact, qui suis-je ?
Ou en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser.
Parce que si tu as la liberté de partir, ça veut dire que, quelque part, il faudrait que je réussisse à te donner tous les jours l'envie de rester.
Oui, quelque part, c'est important de garder en tête qu'on est la première génération à vivre dans nos couples de l'égalité, de la liberté, de l'autonomie, ce niveau d'intimité aussi. Et puis, surtout, on est la première génération, enfin, peut-être avec celle de nos parents, ça dépend quel âge ils ont, mais on est la première génération à chercher dans le couple la réalisation de soi, la réalisation de l'individu. Le couple, aujourd'hui, est supposé nous rendre heureux. Il n'est plus qu'une transaction sociale et financière qui donne une position sociale à monsieur, à madame, et qui permet de faire des enfants. Aujourd'hui, il est supposé nous nourrir sur tous les plans de notre être, quelque part. Il est supposé nous apporter une sexualité épanouissante, il est supposé nous apporter, quelque part, notre meilleur ami d'une certaine façon et notre confident avec qui on va pouvoir partager ce qui s'est passé dans notre journée, au boulot, le copain, mais tu te rends compte, ma famille, etc., etc. Il est le coparent avec qui on va éduquer nos enfants et devoir s'aligner sur les valeurs et savoir comment on fait des choix extrêmement difficiles à chaque étape, parce que c'est ce que tous les parents nous racontent. Il est celui avec qui je vais construire toute ma vie, devoir parler argent au quotidien, devoir imaginer la maison dans laquelle on veut grandir, arriver à accorder nos envies différentes et nos besoins de ville, de campagne, de ci, de ça, etc. Donc on attend aujourd'hui énormément du couple à l'intérieur de la relation, mais aussi pour chacun d'entre nous en tant qu'individu. Vraiment, c'est supposé être la clé de notre bonheur. On veut tous le « ils se marièrent et vécurent heureux ». Tout le monde veut le sien. Et du coup, ça fait que, en fait, aujourd'hui, c'est plus acceptable de juste être mal ensemble. Il est plus question de ne plus s'adresser la parole ad vitam aeternam. Il est certainement plus question de passer toute sa vie et de mourir à côté de quelqu'un qu'on ne peut plus voir en peinture, à qui on ne peut plus parler, qu'on ne peut plus supporter. Ça, c'est plus acceptable, c'est plus pensable aujourd'hui. Alors que l'inverse n'était pas pensable il y a encore une ou deux générations. C'est incroyable le changement qui s'est passé, en fait. Mais du coup, aujourd'hui, ça met une pression sur le couple. Parce que aujourd'hui, le couple doit soit réussir à résoudre ses problèmes et être heureux, soit se séparer. C'est la question qui est omniprésente et qui l'est même dans nos entourages, dans nos discussions avec nos amis, dans tout ce qu'on lit, dans voilà, cette idée du développement personnel qui est partout autour de nous.
Tu veux dire que la politique de l'autruche, ou dit autrement l'auberge du cul tourné à répétition, n'est plus une solution.
Voilà, c'est ça mon amour. C'est exactement ça, t'as bien compris le message.
Et c'est fou, ça crée de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges, parce que Avant, on pouvait se dire, bon, bah, ok, on se comprend pas, c'est pas grave, je vais faire ma vie de mon côté, je vais retourner au boulot, je m'en fous, je vais aller boire des bières avec mes potes, et en fait, c'est pas grave, je laisse le problème là où il est, je m'en occupe pas, et avec du temps, ça va passer. Et tout. Bon, je dis pas que c'est toujours, c'est pas encore possible de le faire, mais aujourd'hui, on a quand même, à mon avis, beaucoup plus envie de trouver des manières de résoudre les conflits, de passer à travers les crises et de s'entendre pour que le quotidien soit heureux.
Mais oui, on a envie d'être heureux. On aspire à ça. Et quelque part, dans une société, dans notre société, qui, d'une part, multiplie les plaisirs instantanés, d'autre part, porte au nu la notion de confort. Aujourd'hui, on doit être confortable. Il n'est plus question d'avoir mal en travaillant. Il n'est plus question d'avoir froid ou d'avoir chaud. C'est plus acceptable. Par rapport à il y a encore quelques générations et quelques siècles en arrière, le niveau de confort, il a incroyablement élevé. Et puis, une société aussi qui remet en question et met sérieusement à mal toutes les structures hyper rigides qui nous viennent du passé, justement, sur les rôles genrés et les places dans la société, sur, ben, par exemple, le mariage, sur même la notion de genre elle-même. Toutes les cartes sont rebattues, tout est rediscuté et l'individu a de plus en plus de liberté de s'auto-définir, de définir ce qu'il veut, ce qu'il sent, qui il est. Mais face à tout ça, à tous ces plaisirs instantanés, toute cette notion de confort et toute cette notion de liberté, il y a une vraie pression et tension qui se crée, justement, entre comment j'équilibre cette recherche du plaisir, y compris immédiat, et en même temps, comment je construis des choses qui vont me nourrir et me permettre de m'épanouir, mais au long cours, pas forcément là, maintenant, tout de suite, dans l'immédiat.
C'est une nouvelle difficulté, c'est un nouveau challenge. On a besoin de trouver des manières de rester, de se soutenir, de se renforcer, d'avoir le courage de traverser des choses qui ne sont pas forcément agréables. Et en fait, avant, ces choses qui n'étaient pas agréables, on se contentait de les endurer. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait le dos rond et on attendait que ça passe. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile de se satisfaire de ça. Aujourd'hui, on a envie d'évoluer. Donc, on est passé d'une logique d'endurer à une logique d'évoluer, à une logique de transformation, à une logique dans laquelle on cherche à grandir. L'enjeu est de rester au-delà du plaisir immédiat. L'enjeu est de rester dans l'inconfort. Parce que ce n'est pas l'amour et le plaisir qui nous tiennent ensemble et qui répondent à nos besoins. C'est la qualité de la relation qu'on aura réussi à construire ensemble. Et cette relation, elle n'est pas innée, en fait, elle n'est pas instantanée, elle n'est pas de fait, elle n'existe pas en soi, elle doit être créée. Et en fait, c'est cette idée de création sur le long cours qui nous amène pas à pas à construire ce dont on a réellement besoin pour l'épanouissement dont tu parlais tout à l'heure, et qui va passer par justement de la confiance, de la compréhension mutuelle, du lien, le fait d'en prendre soin et le fait de le nourrir. Et ça, ce sont des nouveaux enjeux qui n'existaient pas avant. Alors du coup, la question qui se pose maintenant, c'est comment on va faire pour répondre à nos besoins ?
C'est quoi cette relation qu'on va construire qui va répondre à nos besoins ? Et là, on a une petite image qu'on aime beaucoup, qui est la canette de soda versus le puits.
Alors, la canette de soda, c'est quelque chose qui apporte une satisfaction immédiate. Quand elle est bien fraîche, facile, il suffit de la décapsuler, c'est très agréable à boire, ça apporte du plaisir tout de suite. Ça a un très bon goût. Ça nous donne de l'énergie, mais c'est très limité en quantité. Ça ne fait que 25 ou 33 centilitres. Et en plus de ça, vu que ça a du sucre et que ça a des exhausteurs de goût, ça peut aussi créer des formes d'addiction qui entraînent le fait que quand on en a bu une, on veut en boire une deuxième. En plus de ça, il y a plein de choses pas forcément très bonnes dedans pour notre corps, donc ça peut créer du diabète et plein d'autres problèmes de santé. Et au final, ça ne nous permet pas de répondre à nos besoins vitaux. Voire même, une fois qu'on en a bu une, on a encore plus soif après.
Oui, parce que ça n'a pas étanché la soif. Alors que construire un puits, c'est long, c'est ardu, ça promet pas du tout de l'eau immédiatement, voire au contraire, ça peut être une entreprise de plusieurs mois et il faut souvent s'armer de patience entre autres choses. Mais par contre, c'est la promesse d'une eau saine et sans limite. C'est quelque chose qui va pouvoir étancher notre soif, nous permettre de vivre, nous donner de l'eau, indépendamment de, du temps qui fait, de la pluie, de ce qui va tomber, etc. Mais le puits, il suppose de renforcer les bords pour que les murs tiennent et que le puits ne s'effondre pas sur lui-même. Il suppose de l'entretien, il suppose de l'étayer et il suppose aussi de l'approfondir au cas où l'eau se ferait rare.
Donc finalement, on n'a pas du tout besoin des mêmes outils pour décapsuler une canette que pour construire un puits.
Ah non. Pour la canette, on a besoin d'un doigt, un peu comme pour swiper les profils Tinder d'ailleurs, et en un bon petit coup de pied vif, on la réduit à néant.
Alors que pour construire un puits, il faut des outils solides, il faut des outils puissants. Pour construire un puits, il faut d'abord de quoi creuser. Et pour nous creuser, c'est mettre de la conscience. C'est pouvoir ressentir et voir réellement ce qui se passe dans les situations pour pouvoir traverser les crises.
Ce qui se passe en dessous, dans les profondeurs.
Ensuite, il faut de quoi étayer pour renforcer. Et ça, pour nous, ça serait comprendre. Ça serait pouvoir empiler des pierres les unes sur les autres et les jointer pour qu'elles tiennent. Comprendre ce qui se passe pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas se blesser aux mêmes endroits toujours de la même manière.
C'est ça, comprendre nos mécanismes, d'où ils viennent, pouvoir les reconnaître, les identifier facilement, arriver à étayer cette structure.
Et enfin, le puits, il va falloir apprendre à l'utiliser. Et ça, ça veut dire créer. Créer de nouvelles manières, créer de nouvelles façons d'être ensemble et de se relier.
Le seau pour aller puiser l'eau, quoi, accessoirement. Parce que si l'eau reste au fond du puits, elle ne me sert à rien. Et en fait, entre cette image de la canette et du puits, vous voyez bien où on voit avec ça. Seul le puits étanche notre soif, parce qu'il nous donne de l'eau saine. Seul le puits peut nous permettre de vivre, peut aussi nous permettre éventuellement de faire vivre d'autres personnes, notre conjoint, mais aussi les gens autour. Souvent, on dit qu'un puits suffit pour un village entier, quand il est bien construit et qu'il ne s'effondre pas sur lui-même. Et puis le puits va me permettre aussi d'arroser mon jardin, de faire grandir des choses. Et là, l'image, c'est les enfants qui vont vivre, si on en a en tout cas, de cette union qu'est notre couple. Donc, il va les nourrir eux aussi par débordement, par procuration, par écoulement. Et puis, cerise sur le gâteau, décapsuler une canette, ça fait un petit bloc très agréable, mais on sait tous que ça ne demande pas forcément énormément de compétences ou d'être très très finaux. Alors que construire un puits, c'est autre chose. Construire un puits, ça fait gagner en compétences. Construire un puits, ça fait aussi gagner en confiance en soi, parce que j'ai réalisé quelque chose et waouh, c'est quand même pas mal cette histoire. Et puis ça fait gagner en confiance par rapport à l'avenir, c'est-à-dire que, en fait, demain, je vais continuer à avoir de l'eau. Et puis si l'eau se fait rare, je creuserai un peu plus profond, mais mon puits, il est déjà là, il est existant, j'aurai pas chaque jour à repartir à zéro. Alors que, quelque part, la canette, on est très vulnérable, on est très dépendant. On a bien vu qu'il suffit qu'un petit confinement des familles passe par là et qu'on n'ait plus le droit d'aller au supermarché ou qu'on ait seulement le droit d'acheter un paquet de pâtes et un paquet de PQ. Et il n'y a plus notre source de ravitaillement. Et puis, la canette, ça coûte cher. Donc, le jour où on n'a plus d'argent, c'est bézep. Alors que le puits, il est là. Il est là dans le temps, il est là tous les jours, et on peut lui faire confiance. Et on sait qu'il suffit qu'on sorte, qu'on aille mettre notre seau au fond du puits, on le remonte, et la vie, elle est là.
Alors, pour apprendre à construire des puits, on a mis au point la méthode des 3 C. Alors, pourquoi 3 C? Le premier C, c'est d'apprendre à conscientiser. Le deuxième C, c'est d'apprendre à comprendre. Et le troisième C, c'est d'apprendre à créer. Parce que de cette manière-là, toute crise nous permet d'apprendre quelque chose. Elle nous permet d'apprendre quelque chose sur nous, elle nous permet d'apprendre quelque chose sur l'autre, et elle nous permet d'apprendre quelque chose sur notre couple. Chaque crise affine notre capacité à mieux répondre à nos besoins, à mieux les voir, à mieux les sentir, à mieux les nourrir. Parce qu'au départ, j'ai des besoins, mais soit moi-même, j'en ai pas forcément conscience.
Ce qui arrive souvent.
Ce qui arrive souvent. Soit j'ai du mal à les exprimer, ce qui arrive encore plus souvent.
Oui, au moins tout autant.
Soit j'ai réussi à en avoir conscience, j'ai réussi à les exprimer, mais j'arrive pas à faire que l'autre les comprenne.
Ah ben voilà, c'est ça que je vis, exactement.
Et finalement, la crise peut aussi être un allié, elle peut être un pavé jeté dans la mare qui nous invite d'une manière de pas forcément très agréable, ça dépend des fois.
Ni diplomatique.
Elle nous invite de manière assez coercitive à ne plus pouvoir ignorer des besoins.
Oui. Oui, finalement, c'est par rapport à cette question de est-ce que j'ai conscience de mes besoins, est-ce que je sais les exprimer ou pas. Le couple, pour ça, comme on l'appelle le fameux laboratoire ultime, va de toute façon les faire remonter et de toute façon nous les mettre là, sous le nez, sous nos yeux, tous ces besoins pour qu'on puisse les prendre en compte. Et je vais apprendre à les ressentir parce que ça va piquer comme c'est pas permis. Je vais devoir apprendre à les mettre en mots si je veux pouvoir communiquer avec l'autre. Et si encore une fois, j'espère que notre couple va pouvoir répondre à mes besoins, que je veux pas juste y renoncer et endurer. Donc je vais devoir développer ces outils-là pour pouvoir le nommer. Et quelque part, nous allons devoir mettre en place des systèmes de fonctionnement, des rituels entre nous, des choses qui vont permettre que ça puisse être dit, ça puisse être entendu, ça puisse être compris, qu'on puisse reformuler suffisamment pour que le message passe et pour qu'ensemble, on puisse prendre en compte ses besoins. Et ça, encore une fois, ça vient avec l'image et l'envie du couple que l'on a aujourd'hui. Et effectivement, le couple ne va pas nous autoriser à passer à côté de nos besoins parce que la crise va arriver à l'endroit où ce besoin-là n'a pas été pris en compte.
On dit toujours que pour réussir à trouver de la motivation, il y a deux manières. Soit il y a une carotte, soit il y a un bâton. Je pense que beaucoup de couples commencent avec la carotte, c'est-à-dire qu'au départ, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie de répondre aux besoins de l'autre, on a envie de faire bien pour que les choses évoluent et qu'elles répondent à nos besoins. Souvent, les crises, si elles sont vues comme des alliés, si elles sont abordées comme des possibilités d'évolution, sont des moteurs extrêmement puissants pour créer de la motivation. Et pour créer de nouvelles décisions, en fait. Nous amener à prendre de nouvelles décisions, à adopter de nouveaux comportements, à voir les choses d'une nouvelle manière.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est si on peut récolter les fruits de cette crise. Et ça, il faut bien se dire que, en fait, tout couple rencontre des crises. Le couple qui n'a pas de crise n'existe pas. C'est tout. Donc la crise dans un couple, elle est normale et elle est même inéluctable. Et j'aurais presque tendance à penser que, en fait, la crise dans la vie, elle est normale et elle est inéluctable. On parle de la crise de la quarantaine, de la crise de la cinquantaine, maintenant c'est la crise de la trentaine. Mais en fait, tous, on connaît des crises. Et ces crises sont des grands et très puissants moments d'évolution. Des moments où on remet tout en question, on rebat les cartes, quelles sont mes valeurs, qui je suis, de quoi j'ai envie, comment je continue. Elles ne sont pas beaucoup plus agréables à vivre seules. Elles sont peut-être moins fréquentes. Le couple, lui, va nous mettre des crises un tout petit peu plus souvent, parce qu'on est deux, parce que ça fait une multiplication exponentielle, et puis parce qu'il y a des besoins tellement plus profonds du côté de l'amour, du côté du lien, du côté du mammifère que l'on est, qui sont beaucoup plus ancestraux à l'intérieur de nous que les questions qu'on peut se poser aujourd'hui dans nos vies de réalisation de nous-mêmes à travers le travail, à travers etc. Mais dans tous les cas, une crise, c'est une opportunité de récolter les fruits.
Et du coup, ça nous amène à voir la crise d'une nouvelle manière, parce que si avant, quand on était en crise, on faisait juste le dos rond en attendant que ça passe, aujourd'hui, on peut voir la crise comme une possibilité, justement, vu qu'on a le choix de partir, la possibilité de mieux répondre à nos besoins. C'est comme si partir, prendre la décision de partir à chaque crise reviendrait à creuser un trou de 30 cm dans le sol à chaque fois, plutôt que d'investir de l'effort pour créer un trou beaucoup plus profond qui permettrait de trouver de l'eau et donc de construire un puits. Et en fait, ces crises, même si elles sont très douloureuses et qu'elles vont inéluctablement nous amener à ce point de non-retour, où on se dit à l'intérieur de nous-mêmes, mais comment je vais faire? Je vais jamais pouvoir rester avec cette personne, c'est insupportable, ça me fait tellement mal, ça me donne envie de partir en courant. Et c'est précisément dans ces moments-là où on va avoir besoin d'outils, où on va avoir besoin d'une feuille de route, où on va avoir besoin d'une méthode, pour pouvoir progressivement apprendre à traverser ces crises et à en sortir grandi.
C'est ça. Parce que, quelque part, si on n'en fait rien, si on se laisse juste se blesser mutuellement, chaque crise qui passe nous éloigne un peu plus. Elle nous sépare. Et elle prépare notre fin. Et ça donne des couples qui sont désabusés l'un de l'autre, qui n'arrivent plus à voir ce qu'il y a de beau, qui n'arrivent même plus à savoir pourquoi ils sont ensemble, en fait. Parce que les crises, les unes après les autres, les petites comme les grandes, le quotidien comme les grands moments de la vie, nous ont usés, ont érodé ce qu'il y avait entre nous. Alors que si on peut conscientiser, comprendre et créer à partir de ce que la crise nous a fait traverser, alors tout d'un coup, elle nous renforce, au contraire. Elle renforce la confiance qu'on peut avoir dans notre union, d'abord parce que ça veut dire que chacun a fait le choix, encore une fois, de rester avec l'autre et de traverser cet inconfort. Chacun fait le choix d'être là, exactement. Et c'est un vrai choix aujourd'hui, donc ça a une vraie valeur. Encore une fois, le oui n'a de valeur que si le non est possible. Aujourd'hui, on peut dire non. On peut dire stop, c'est fini, non, ça je veux pas. Donc si on dit ok, traversons, allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Armons-nous, faisons-nous aider, mettons en place quelque chose, mais allons-y. On va essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté du tunnel pour nous. Alors tout d'un coup, ce vrai choix donne de la valeur et renforce l'union que l'on constitue. Et puis, elle nous donne aussi des repères. C'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, on apprend à se connaître, on apprend à voir quels sont nos boutons, ah tiens, comment je réagis, on comprend mieux. Toi et moi, aujourd'hui, on arrive à voir quand il y a une situation qui nous met au défi et qui est difficile à gérer, comment chacun répond avec ses stratégies de survie et de protection préférées, comme toujours, et qu'est-ce que ça donne. Mais ça, ça veut dire aussi que ça nourrit le système. Ça veut dire que, en fonction de comment tu réagis et de comment je réagis et de ce qu'on connaît de nos histoires mutuelles, ce qu'on peut comprendre de chacun de ces fonctionnements et les repères que ça place, la fois suivante, on est plus compétent, la fois suivante, on arrive à se repérer plus vite, et la fois suivante, on sait mieux comment on peut réagir à ça, et surtout comment on peut en sortir un petit peu plus vite et avec un petit peu plus de plumes que la dernière fois.
Du coup, la question n'est plus « est-ce que je pars ?» Où est-ce que je reste? Mais la question devient, comment faire pour que la décision de rester nous permette de grandir?
Oui, pour qu'elle nous permette de mieux répondre à nos besoins demain, que notre couple soit plus fort grâce à ça, que j'ai plus confiance en nous après cette crise que je n'avais avant.
Donc si les crises sont inéluctables et que la douleur qu'elles créent semble difficilement évitable, par contre, le fait de se retrouver à chaque fois plus séparé et plus déconnecté, ça, par contre, on peut l'éviter.
Oui, et plus ça, blessé.
Ça, par contre, voilà, on peut non seulement l'éviter, mais le renforcer. C'est-à-dire qu'on peut, oui, au contraire, arriver au résultat inverse et voir qu'après une crise, parce qu'on aura réussi à se relier, parce qu'on aura montré à l'autre qu'on avait l'intention de s'accrocher et qu'on a eu le courage de rester à un endroit qui était désagréable, alors rester devient une décision de renforcement. Et du coup, progressivement, en ayant une meilleure conscience et connaissance de nos besoins et de comment y répondre, on a de moins en moins soif. Souvenons-nous que la confiance ne se construit pas quand tout va bien. La confiance, elle se construit dans le fait d'avoir pu vérifier que quand tout va mal, je vais pouvoir compter sur toi. Donc c'est comment on se comportera pendant les crises et après les crises qui nous permettront de renforcer notre lien, de renforcer notre confiance et d'encore plus apprendre à nous nourrir mieux.
Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.